les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Bonsoir à tous. Si la Ferrari rouge et les poils du torse de Tom Selleck ne vous disent rien, restez avec nous car on va aller un peu plus loin que ces détails pour vous parler de Magnum.
Mais dis donc, il va y avoir un problème, je pense. Je ne m'y connais absolument pas dans les poils de torse de Magnum et c'est quand même moi qui dois parler de la série. Bon, Thomas Magnum, mais il est vieux. Moi, je me souvenais pas que c'était si vieux que ça, ce machin. 80, 88.
Ben c'est vraiment la série 80s par excellence.
Oui, ça c'est
que policière, 80s par excellence.
Donc oui, saison de 155 épisodes, ça c'est pour la petite histoire. C'était sur CBS. C'est bon à savoir parce que Thomas Magnum était un vieux de la vieille sur CBS. On en reparlera tantôt sur une série que...
Enfin, Tom Selleck plutôt.
Tom Selleck, oui, j'ai dit.
Thomas Magnum.
Enfin, on va rien dire.
Le personnage et l'acteur sont tellement collés l'un à l'autre qu'on peut facilement les amalgamer.
Et puis, c'était à l'époque où les séries arrivaient juste un an après leur diffusion aux États-Unis, puisqu'elles sont arrivées sur Antenne 2 en 81. Donc, figure-toi que ça, c'était quelque chose que je ne savais pas du tout, mais Magnum est là pour remplacer Hawaii Police Detail.
Steve McGarrett.
Oui, lui-même, en personne. Eh bien, après 12 ans, CBS décide d'arrêter les frais, mais donc ils ont des studios et tout plein de gens qu'ils ont mis en place à Hawaii à rentabiliser. Donc, on cherche un petit peu une idée pour faire quelque chose à Hawaii, et donc on passe d'un policier à un autre, c'est logique. Ils ont demandé à Glenn Larson. Glenn Larson, c'est un gars qui vient juste de sortir Galactica. Et donc, Glenn Larson décide de faire une série policière avec un certain... Enfin, il est obligé de le faire avec Tom Selleck. Alors, Tom Selleck, à l'époque, c'était donc toujours le grand charmeur, etc. Mais c'était une petite valeur qui montait à Los Angeles. Il était pratiquement inconnu. Il avait joué dans 200 dollars plus les frais, un rôle semi-régulier, celui de Lance White, oui, qui revenait très souvent. Et il avait tenu un rôle dans Les Feux de l'amour pour CBS. Tom Selleck est donc une valeur montante à l'époque. En série, il en a fait d'autres, vous retrouverez tout ça sur le site. Et figure-toi qu'au même moment où Glenn Larson lui demande d'incarner de Magnum, eh bien, Lucas et Spielberg lui demandent d'incarner Indiana Jones.
Non.
Si. Moi, je ne savais pas non plus, ça, je trouve ça assez rigolo. Et donc, pour finir, il va choisir CBS. Mais CBS le voulait vraiment beaucoup, donc à mon avis, ils ont eu des arguments en monnaie sonnante et trébuchante, on va dire. Bon, donc, Glenn Larson remet un projet dans lequel Magnum est un privé macho, un ex-agent de la CIA qui ressemble beaucoup à James Bond. Et personne n'aime. Selleck n'aime pas du tout. Or, comme c'est lui la vedette et qu'il a le statut et que sa voix a du poids, il suggère de faire appel à Don Bellizzario.
Le producteur de Code Quantum.
Bellizzario, en fait, ça peut bien se passer avec Glenn Larson, puisqu'en fait, ils ont travaillé ensemble sur Galactica. Donc, c'est pas vraiment un coup de vache que Magnum fait à Glenn Larson. Il ressort un de ses projets, Ash Flynn, qui était un privé qui avait fait la guerre du Vietnam et qui roulait en Ferrari.
Ça me dit quelque chose, vaguement.
Eh bien oui, au lieu de l'appeler Flynn, il l'appelle Magnum, puisque finalement ça sonne assez bien ce nom. Il invente les personnages de Higgins, de Terry ou TC dans la version originale et de Rick. Et bien voilà, et ça marche très très bien, ça contente tout le monde. Donc ça devient Magnum.
Mais tu savais qu'au départ, le rôle de Tessie n'était pas fait pour un noir.
Ah non, c'était fait pour qui alors?
C'était normalement pour un Texan blanc. Et c'était Gerald McRaney qui devait interpréter le rôle. Et c'est de nouveau Tom Selleck qui a suggéré que ce serait bien qu'il y ait un black à l'intérieur de la série. Il avait quand même l'un des rôles principaux. Il a d'ailleurs tenu la vedette sur plusieurs épisodes où Magnum était un peu en retrait. Donc on peut dire que même une grosse partie des acteurs de la série a son quart d'heure de gloire dans la série plusieurs moments.
Sauf Robin Masters, mais bon, ça c'est normal.
On en reparlera un petit peu. C'est un peu comme Charlie.
Je voulais te sortir la comparaison, tu le fais à ma place. Je fais grève pendant 48 minutes.
Non, je vais pas tenir.
Thomas Sullivan Magnum, de son nom en entier, joué donc par Tom Selleck, on ne le rappellera plus, mais comme ça me permet au moins une fois de ne pas me tromper. Donc, il était un militaire, ça tout le monde s'en souvient probablement, issu d'ailleurs d'une longue lignée de militaires avec son père et son grand-père qui sont tous les deux morts au combat. Lui faisait partie des services secrets de la marine. Et à 33 ans, il décide qu'il a déjà donné assez pour son pays et que maintenant, il veut s'amuser.
En fait, en 10 ans de marine, il a fait 9 ans de combat, donc il en a un peu marre.
Il a fait le Vietnam. Et donc, il rencontre, dans des circonstances un petit peu floues, un certain Robin Masters, qui est un écrivain à succès, qui le charge de la surveillance de son domaine et des invités qu'il y reçoit, mais lui, il est quand même toujours pas là, donc on voit pas pourquoi il reçoit des invités. Comme finalement, la surveillance de la propriété, ça lui prend pas énormément de temps, il devient détective privé. Ceci dit, c'est un détective plutôt intuitif et pas vraiment ordonné comme dans Homicide. Par exemple, lui, les empreintes et tout ça, ça le connaît pas beaucoup.
Oui, ses relations plus... avec la pègre, notamment avec Rick, relations avec d'autres milieux un peu bizarres.
Oui, c'est une ruse et de l'intuition en général. McDonald, donc, bel homme, sportif, il roule en Ferrari, mais c'est pas la sienne. Il habite dans une grande maison, mais c'est pas la sienne. Il voit du bon vin, mais c'est pas le sien. Et il a une femme, et c'est bien la sienne, mais elle est supposée morte au Vietnam, ça c'est pas gay, dans la débâcle de Ségon. Elle s'appelle Michelle. En fait, elle réapparaît, tu sais, la dernière saison, la 8e. Oups, Michelle revient. Et en fait, elle est traquée par les services secrets. Et donc, elle confie une petite fille qui s'appelle Lily à Magnum. Et on apprend dans l'ultime épisode qu'en fait, il s'agit de sa fille. Moi, je me souviens, j'aimais pas du tout ce dernier épisode.
C'est de nouveau très, très mélo. Hein. C'est pas l'épisode où il meurt, quand même.
Oui, ça, c'est peut-être intéressant d'en parler. Thomas Magnum meurt à la fin de la 7e saison, puisque CBS avait décidé d'arrêter. Le Cosby Show faisait des succès d'audience phénoménaux de l'autre côté, donc ils décident d'arrêter.
Et donc ils ont le temps de préparer un épisode final où ils meurent pas. Hein. Ça se finit quand même sur une fin ouverte, où on le voit
il est un
religieux, voilà. Comme Belisario sait très bien le faire avec Code Quantum, finalement. Ouais.
Mais finalement, la même patte. CBS décide de réattaquer avec une saison un petit peu plus courte, mais quand même là. Et donc, c'était un rêve.
C'est un peu comme Bobby qui se réveille après une saison complète.
Sauf que là, c'est un peu un coup dans l'eau, un petit peu mieux la route, mais bon, quand même.
C'est un peu dommage d'avoir repris, finalement, hein, pour si peu d'épisodes. Et les épisodes étaient peut-être d'une moins bonne qualité, en plus.
C'était bon.
C'était un peu plus mélo, et bon.
Comme les dernières saisons, en général. Bon, face à Magnum, donc, on a Higgins. Jonathan Cale Higgins III.
Qui est joué par Johnny Lorman, quand
lui-même. Higgins, c'est exactement l'inverse de Magnum.
C'est l'un des personnages les plus drôles et les plus pince sans rire de la télévision des années 80.
Je suis d'accord avec toi. Et c'est un personnage très réussi. Donc, lui, il est le stéréotype même de l'anglais, cultivé, distingué, d'une correction à toute épreuve. Et il a une quantité de hobbies assez impressionnante. Je vais t'en citer quelques-uns, juste pour le plaisir. Donc, il fait du fleuret, il joue aux échecs, il cultive des orchidées, il aime beaucoup la photographie, l'art dramatique et l'archéologie. Et évidemment, il est très très compétent dans chacune de ses activités.
Et il aime les chiens. Zeus et Apollon. Magnum est toujours consterné du fait que ces deux chiens l'obéissent au doigt et à l'œil. Sauf à certaines occasions.
Je vois qu'on avait la même idée.
Oui. Il y a un épisode où il y a une jeune demoiselle qui décide de les baptiser Popeye et plutôt deux.
Elle s'appelle Irma, la jeune demoiselle. Oui, et c'est dans la dette.
Et apparemment, ça a l'air de plaire aux chiens. Donc, Zeus et Apollon très peu, mais Popeye et plutôt deux, ça a l'air de leur plaire. Donc, ils obéissent plus à la jeune fille qu'à Higgins. Et ça doit l'énerver pas mal.
Ça l'énerve pas mal. D'autant qu'en général, la seule fonction de ces deux chiens, c'est de courir après Magnum. Et que là, en l'occurrence, Magnum a une paire royale. Ceci dit, figure-toi que Johnny Lerman, il a joué le propre demi-frère de Higgins. Donc, qui se ressemblait très très fort, qui s'appelait Elmo Diller, et c'est carrément pas du tout le même style que Higgins. Et donc c'était juste pour dire que Johnny Lerman, c'était quand même un fameux comédien.
Il a dû énormément s'amuser à faire ça, je suppose.
Oui, j'imagine.
Mais qu'est-ce que vous faites là ? Tout me porte à croire que je suis coincé entre le deuxième et le troisième étage, et cela pour une durée indéfinie, grâce à vous. Bon, je vous en prie, ne prenez pas cet air. Comment saurais-je pourquoi nous nous retrouvons ici?
Parce que vous avez provoqué la chose. Vous avez dû découvrir que j'avais rendez-vous avec Nally.
Rendez-vous avec qui?
Nally, Higgins, Bill Nally, le type que j'avais filé. Ne me dites pas qu'il vous est inconnu, quand même.
Bien, disons que je le connais de réputation. C'est un homme d'affaires des plus respectables que je sache.
Oui, c'est un gangster. Et nous avons fait un marché selon lequel il me livrerait le nom de son patron. C'est vous aussi qui m'avez monté le coup, non?
Mais bien sûr que non.
Que faites-vous ici, alors? Ça, je vous le demande. Hein?
Vous avez pris la Ferrari une nouvelle fois. Je n'ai fait que vous suivre pour la récupérer.
C'est bizarre qu'en me suivant, vous soyez arrivé avant moi, non? Vous avez mijoté un bon tour pour me faire payer le pont de la rivière Kouai.
Ah oui, pour me venger de vous, œil pour œil, dent pour dent, et un prêté pour un rendu, un chien de ma chienne, oh non.
Ah bon, parce que vous avez aussi une chienne, maintenant.
Je n'ai concocté aucune représaille. C'est par trop infantile. Je vous laisse le dernier mot en espérant voir s'éteindre votre furie dévastatrice.
Ah, sûrement moins que la vôtre. Qui est-ce qui a coupé le cou à Nestor, hein? Quel est le fou furieux qui a fait cadeau de toutes mes affaires, hein?
Mais ce n'est que bagatelle comparé à vos méfaits. Vous avez coupé mes hybrides, détruit mon ouvrage d'art, balayé mes mémoires. J'ai seulement uniquement disposer de babioles, moi.
De babioles?
Parfaitement des futilités, des jouets. Un masque de gorille, des vieilles vignettes de baseball. Un morceau de bois que vous avez abandonné, le lacanine.
Le kékaline. Alcaline. Mon joueur fétiche, un des maîtres du jeu de baseball.
Ah, voilà, le mot est lâché.
Ah oui?
Il est anormal pour un adulte d'attacher une importance telle à des jeux et à des jouets.
Ah oui, alors et quand c'est un pont ou un canon jouet, là on a le droit. Ça n'a rien d'un jeu de parler avec douceur à des fleurs sexuellement déphasées. Tout ça c'est réservé aux hommes mûrs. Faut pas la moindre futilité là-dedans, hein? Hein? Parfois je me demande si vous êtes pas un hybride, vous aussi.
Magnum Higgins. J'ai trouvé, en cherchant très bien, deux points communs entre ces deux gars-là.
C'est possible.
Ce sont les pantalons courts et l'humour. Mais évidemment, les pantalons courts ne sont pas tout à fait de la même mode.
Non, lui devait avoir, je crois, un jeans coupé ras les cuisseaux. Et lui, ça devait plutôt être le genre très british coupé
Bermuda,
en dessous du... Oui, avec le petit bord et tout en tissu coton, comme ça.
Thomas Magnum et Higgins sont tous les deux les représentants de deux modes de vie, de deux cultures de conception du monde totalement différentes. Et évidemment, les faire cohabiter, c'était s'exposer à quelques petites étincelles. D'autant qu'ils veulent toujours avoir le dernier mot. Magnum, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même encore un grand enfant qui aime bien s'amuser, qui aime bien boire, qui aime bien l'humour et faire des petites blagues de temps en temps. Mais finalement, Higgins ne vaut guère mieux, étant donné qu'il s'amaille aussi très très bien avec Magnum, il adore ça. Et en fait, concrètement, la lutte entre les deux, c'est centrée sur le partage du territoire. Donc en gros, la propriété de Robin Masters, la cave à vin est l'exemple le plus frappant, puisque Higgins invente plein de stratagèmes pour la surveiller, et Magnum arrive toujours à y pénétrer pour boire le meilleur cru.
Malgré les alarmes électroniques, les chiens placés devant, il arrive toujours à aller chiper la meilleure bouteille de vin dans la cave, et ce qui horripile évidemment au plus haut point Higgins.
L'affaire arrive, donc Magnum l'a gagné grâce à un pari, dans le premier épisode, il parie qu'il pourra rentrer... dans la propriété sans se faire voir des chiens. Évidemment, elle y arrive et pique la Ferrari. Et donc, l'enjeu, c'était qu'il puisse avoir et la Ferrari et un logement gratos. Et donc, la Ferrari est acquise à Magnum, mais c'est pas pour ça que c'est pour toujours. Donc, elle est l'objet de tractations et de grands chantages tout au long des saisons.
Il y a une grande question qui se pose dans la série, c'est pourquoi est-ce que Robin Masters a engagé Magnum et comment ils sont rencontrés? Ça n'a jamais été élucidé.
C'est vrai que c'est des circonstances très floues. Et d'ailleurs, tout le monde se dit toujours, Magnum d'ailleurs a un épisode... tire plein d'hypothèses sur l'identité de Robin Masters.
Et parce que lui non plus, il ne l'a jamais vu finalement.
Eh bien non, on dit qu'il ne l'a jamais vu, mais il l'a quand même rencontré. Donc moi, je me dis qu'il y a peut-être un petit problème de ce niveau-là.
Et alors ça s'est fait par téléphone, ou... c'est quand même assez bizarre.
Ouais.
Et le doute plane toujours, surtout sur les dernières saisons. Est-ce que c'est Higgins, Robin Masters, ou est-ce que ce ne serait pas Higgins? C'est assez flou finalement.
Mais Higgins a déjà avoué, dans un épisode, un moment, Magnum, ils sont emprisonnés dans un ascenseur. C'est d'ailleurs un épisode assez rigolo, puisqu'ils n'arrêtent pas de se disputer. Magnum lui dit, mais Higgins, j'ai compris, c'était toi, Robin Masters. Et il dit oui. Et puis après, il se rétracte. Donc,
Dans l'épisode dont je parlais tout à l'heure où Magnum décède, donc le dernier épisode de la 7e saison, il essaye de lui faire avouer, mais Higgins est interrompu, donc on ne le sait toujours pas non plus.
On ne saura jamais. C'est un peu comme le Charlie de Drôle de Dame, puisque c'est de lui qu'on parlait tout à l'heure. On ne l'entend jamais que par la voix. Tiens, d'ailleurs, la voix de Robin Masters, c'était Orson Welles dans la bande originale.
On ne l'entendait pas souvent, je crois. On l'a peut-être entendu sur 3 ou 4 épisodes. Donc.
Et on l'a vu une fois, mais de dos.
Ça conforte l'idée que ce ne serait pas Higgins.
Donc j'en reviens, tiens, à Higgins et Magnum. Justement, dans cet épisode, un ascenseur pour nulle part. En fait, le début, c'est qu'ils se disputent. Mais... suite à plein de représailles, ils se disputent de plus en plus fort. Donc, par exemple, Higgins décide de vendre à une œuvre de charité les reliques de Magnum et son superbe masque de gorille. La réplique ne se fait pas attendre puisque Magnum décide de faire sauter le pont de la rivière Kwai de Higgins. Tu vois la petite maquette qu'il avait faite. Et donc, la fin de l'épisode, mais c'est un épisode qui montre en fait en condensé tout ce qui a pu se passer entre Magnum et Higgins. Mais la fin montre qu'ils ne peuvent pas rester fâchés très longtemps et qu'en fait, ils s'apprécient très très fort.
Et ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre.
Ouais, ça c'est clair. Et tiens, je voulais dire en passant que Illerman, donc celui qui joue Higgins, parvient très bien à faire ressortir donc toute la rigidité du personnage sans le rendre ridicule, ce qui n'est pas mal. Et que d'un autre côté, Tom Magnum, lui, il a développé un éventail assez typique de mimiques, de sourires figés ou de haussements de sourcils, qui font qu'ils sont vraiment très antagonistes, même dans le regard, enfin dans la façon de les voir. Bon, toujours dans l'humour, puisqu'on en a un peu dans l'humour, c'est la voix off. Ça, c'est un procédé très typique à Magnum. Très typique aussi au film noir des années 30, des films de détectives. Donc la voix off dans laquelle Thomas Magnum n'arrête pas de faire des petits commentaires sur lui-même. Donc c'est carrément de l'autodérision, où il se moque de la situation, etc. C'est aussi une façon de relier les différents moments d'un épisode facilement. Ben oui, tiens. Il suffit de demander à Magnum où il s'est rendu, et il explique et il n'y a pas besoin de le montrer à l'image. Donc évidemment, ça fait de l'économie de pellicule, on va dire. Un autre ressort comique de la série, c'est le trio Magnum, Rick et Terry. Là, je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu ou pas, mais je me souviens, quand j'étais petite, qu'il ne voulait jamais l'aider. Il ne voulait jamais prêter son hélicoptère, par exemple, ouais. Terry, mais il finissait quand même toujours par le faire.
En fait, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Rick, Terry et Magnum se sont connus au Vietnam. Terry conduisait l'hélicoptère sur lequel Magnum et Rick étaient occupés de se battre, donc il les déposait, il tirait avec. Donc Rick était apparemment un mauvais garçon quand il était jeune.
C'était très mauvais garçon.
On en parle très très peu, mais il y a quelques allusions qui sont faites, et notamment ses relations avec la pègre, dont Magnum se sert la plupart du temps pour résoudre une partie de ses affaires. Terry, donc Tessie dans la version originale, est père de deux enfants. Il aurait trompé sa femme, il serait retourné avec elle, mais ça lui aurait pas plu et elle serait partie avec ses deux enfants. Donc ce sont deux personnages assez torturés. Et puis il y a toujours évidemment les Roland du Vietnam qui restent dans leur mémoire. Alors Terry, lui, ben il râle toujours un peu quand Magnum doit lui emprunter son hélicoptère, parce qu'il veut jamais le payer, bien évidemment. Il dit oui, mais je te paierai en fin d'enquête quand le client ou la cliente, parce que c'est bien plus souvent la cliente, aura payé les frais. Et Rick rechigne toujours un peu à aller retrouver la pègre.
Mais ça, il a essayé de quitter un peu, parce que la pègre, à cause de la pègre, il a dû fermer son premier nightclub, qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, le Rick American's Café. Il a dû ouvrir donc le King Kamehameha Club. Et donc, à cause de la pègre, il a eu deux, trois petits ennuis avec
les
autorités.
Tourné de cette façon-là parce que les responsables de la chaîne n'appréciaient pas beaucoup l'image que Rick avait. C'était plus une caricature d'Humphrey Bogart et ça n'a pas vraiment plu beaucoup à la chaîne. Donc, dès l'épisode suivant, après le pilote, il a repris un café diurne, alors qu'il appartenait plus au monde de la nuit avec son bar, sa boîte de nuit. Donc il a un peu changé de statut entre le pilote et le premier épisode, genre de choses qui se passent régulièrement sur les séries.
Donc finalement, un trio assez comique avec plein de relations un peu zarbies entre eux. Il y a aussi la chute comique, je ne sais pas si tu te souviens, donc ça se termine toujours sur une petite note un peu rigolote.
Presque
en général,
toujours.
Magnum et Higgins qui s'engueulent. Je m'en souviens d'une assez rigolote où Magnum lui donne la solution d'un mot très compliqué dans un mot croisé du Times. En fait, il a complètement bluffé Higgins, mais il nous le dit seulement à nous, évidemment. Donc c'était toujours une chute de ce style-là.
Il y en a d'autres où les scénaristes ont vraiment tourné en dérision leur propre série parce qu'ils ont réutilisé le gimmick de Higgins qui explique toujours ses histoires un peu filandreuses, comme ça. Il va chercher ses narrations filandreuses avec ses explorations et ses histoires de colonialistes. Dans un des épisodes qui s'appelle La lettre à la duchesse, c'est le contraire, c'est Magnum qui va commencer à raconter une histoire très très filandreuse à Higgins. Et, là, on est parti d'un fou rire puisque, évidemment, tout le monde a compris l'allusion.
Surtout qu'Higgins s'en va pendant qu'il parle.
Tout à fait. Mais tous les épisodes de Magnum ne se terminent pas systématiquement par une note comique. Hein. Il y en a quand même pas mal qui cultivent une certaine émotion. C'est ce qui peut faire dire que Magnum est quand même une série imprévisible.
Quand même. Je suis d'accord avec toi. Bon, je vous ai parlé de la voix off qui était un procédé des films. Il faut savoir que le détective privé a une très très longue histoire derrière lui, puisque c'est un genre qui était présent dans le roman dans les années 30 et 40, mais aussi dans les films. Donc la voix off, je vous en ai déjà parlé, je ne pense pas que je vais y reprendre beaucoup de temps, sauf peut-être vous dire que quand Thomas Magnum nous parle à nous, téléspectateurs, il regarde toujours la caméra, ce qui est un procédé normalement qu'on ne fait pas à la télé. On ne regarde jamais la caméra, on fait semblant qu'elle n'est pas là. Et là, il regarde la caméra, ça me fait un peu penser à Parker Lewis, tiens d'ailleurs. Ça me fait aussi penser à Claire de Lune. Là, les personnages regardaient aussi la caméra et parlaient aux téléspectateurs, mais eux, c'était parce qu'ils étaient carrément conscients de n'être que des personnages de fiction. Et donc, ça donnait de temps en temps une note un peu décalée. Alors, Magnum, donc, c'est un détective privé, mais alors, il n'a pas grand-chose à voir avec les durs à cuire de l'époque du roman noir, puisqu'à l'époque, c'était plutôt le style Maigret dans le physique. Magnum, il a eu droit à la cassure Starkey Hutch, donc Magnum, heureusement, n'est pas obligé de se balader avec...
D'où la voiture rouge, probablement.
Non, c'est peut-être parce que c'est bêtement une Ferrari. Et que
oui,
Ferrari,
mais il y a des Ferrari jaunes aussi. Hein, notre...
Donc Magnum se rapproche plus du 200$ plus les frais, un détective nonchalant, un grand enfant avec plein d'humour, mais un sens de la justice toujours très développé.
Un peu beaucoup macho, quand même. Hein.
Magnum ? Non.
Non.
Quoi, tu veux dire qu'il est macho parce qu'il tombe toutes les filles qui passent ?
Non, mais enfin bon, c'est la manière dont il traîne les jolies jeunes filles, quoi.
Et la manière dont il conduit sa jolie Ferrari.
Voilà, tout à fait. Dans la manière dont il roule un peu trop les épaules à mon goût, enfin bon.
Mais donc Magnum, il est un petit peu éloigné de, par exemple, Maigret, qui n'est pas un détective des débuts des années 30, mais enfin bon, souhaite. Et notamment dans sa façon de mener les enquêtes, on en a touché un petit mot tout à l'heure, mais donc Magnum, c'est donc la ruse. Les séries des années 80, elles sont assez violentes. Agent sous risque, par exemple, avec plein de bagarres partout. Pas violent, plutôt action. Mmh. Violent, c'est plutôt les années 90.
Plutôt basé sur les cascades, les crashs de voitures et les courses-poursuites entre deux voitures.
Ben finalement, Magnum, c'est pas tant que ça.
Il y en a, mais fait un peu partie du décor, finalement.
Oui, c'est parce que c'est
nécessaire.
C'est pas le clou du spectacle, mmh, comme dans l'agence sous risque.
C'est parce que c'est nécessaire, c'est pas le détail qui tue et qui va donner la solution de l'énigme. Non, il y en a, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un petit peu, histoire de mettre du mouvement dans la série, mais c'est pas nécessairement la chose obligatoire.
Et donc Magnum, il doit se baser de temps en temps donc, sur ses intuitions en général, mais un peu sur ses indices. Et là, on peut pas les louper, parce qu'en général, ils sont en très gros plan. Donc là aussi.
De là à dire que Magnum n'est pas très fut-fut.
Je n'ai pas dit ça. Mais donc il a toujours un déclic à la fin de l'enquête. On ne sait pas très bien comment il fait, mais il trouve qui est le malfaiteur et donc il s'empresse d'aller le serrer.
Que tu le veuilles ou non, il m'a bien fait arrêter. Thomas, combien de fois tu vas encore le répéter? Higgins t'a quand même expliqué sa réaction.
Et tu l'as cru?
Et bien un jour j'espérais qu'il dit vrai en promettant de retirer sa plainte parce qu'enfin, moi j'ai hâte de récupérer mes $2000 de caution.
T'inquiète pas pour ça, va. Il fera les choses comme il faut avec la police. Il a marqué un point, alors...
Et c'est quoi cette histoire de balai de sorcière que t'avais promis de chevaucher?
Ah oui, alors là, il s'est cru très spirituel de me rappeler que je lui avais proposé de nettoyer le jardin à la tondeuse électrique pendant que lui, il fait ses expériences. Mais ce coup-là, je l'ai, mon petit trousseau de clés.
T'es dingue ou quoi? Tu vas pas essayer de récupérer la Ferrari?
Oh, bien sûr que non. Non, je voulais juste le retrouver pour lui donner la prochaine fois.
Dis donc, Thomas, mon appareil photo, où il est passé?
Et toi, t'aurais pu m'aider pour la caution?
Ah, vous aviez déjà quitté le poste quand je me suis pointé. Où est l'appareil, Thomas?
Bah, chez les flics. Je l'avais mis dans l'auto et eux, ils ont mis l'auto à la fourrière.
Il n'y avait rien dedans. Je leur ai demandé de vérifier.
Ah, d'accord, oui. Alors tu devrais me faire développer ça.
Je dois quoi?
Ah, je ne peux pas demander à Higgins d'utiliser la chambre noire. Et puis ce film, c'est le fil conducteur jusqu'à ton appareil.
D'habitude, ils vont pair. Alors pourquoi est-ce que cette bobine est séparée de son appareil?
Parce que j'ai mis un autre film dedans, avant qu'un homme de Nali ne me pique ton appareil. Mais t'en fais pas, on va bien récupérer, quand on coincera Nali, hein?
Attends une seconde. Qui est Nali?
Il est à la tête du plus grand réseau de maisons de jeux des îles. Puis cette pellicule, elle peut le prouver, c'est une suite d'adresses que j'ai photographiées d'après les dossiers de son bureau.
Là où se trouvent les cercles de jeu?
J'en serais sûr si Thierry veut bien développer le film, et si toi tu vérifies deux ou trois adresses.
Moi?
Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas le faire moi-même. Nali m'a repéré. Je me demande bien comment, d'ailleurs.
Et moi, je me demande comment je fais pour ne pas l'assommer. Il m'a coûté $1200, cet appareil.
Bah, raison de plus pour m'aider à le retrouver en développant cette bobine. Allez, sois gentil.
J'irai te porter les photos dès que ce sera fait, Eric.
Et pendant ce temps-là, Eric, est-ce que tu pourrais contacter Picaglas? Il pourrait être au courant pour Nali.
Thomas, Picaglas, il est pas gratuit, hein? Mets-toi ça dans la tête, il a beau m'avoir à la bonne, mais moi je me sens redevable.
Ah oui, mais là c'est très important.
Mais c'est toujours très important. Et toi, tu vas te croiser les bras pendant ce temps-là?
Mais pas du tout. Je vais de ce pas croiser le fer avec les mauvaises herbes.
Qu'est-ce qui lie l'amitié de Magnum, Rick et Terry? Tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est le Vietnam.
Oui.
Waouh.
C'est donc une amitié de fer.
Oui, d'ailleurs le premier épisode, il fait une très très forte allusion au fer, puisqu'ils ont chacun une superbe chevalier, avec un iris dessus, qui représente je ne sais plus quoi. Enfin bon, bref, ça veut dire qu'ils ont fait le Vietnam dans la même compagnie. J'espère que tous les soldats américains qui ont fait la guerre n'ont pas reçu une très belle chevalière comme ça, parce que autrement, il y a de quoi se désengager. Enfin bref, le
c'est
Vietnam.
De mauvaise langue quand
oui,
même.
Un petit peu, j'adore ça.
J'avais remarqué.
Donc le Vietnam, c'est d'abord un élément qui explique le fait que ces trois personnages-là ont des hélicoptères d'abord, qu'ils savent se battre, qu'ils connaissent la paix, qu'ils ont des relations un petit peu bizarres, etc. Donc ça, c'est un petit peu un élément d'histoire, on va dire. Mais le Vietnam, c'est aussi un réservoir de scénario, parce que bon, Magnum, c'est un policier avec beaucoup d'éléments humoristiques, mais c'est aussi de temps en temps des scénarios un petit peu hybrides entre les mémoires ou le passé de Magnum et le policier. Donc la plupart du temps, le Vietnam revient soit par son passé à lui, à Magnum, c'est tout le feuilleton sur sa femme notamment, Mais il arrive aussi très fréquemment qu'un personnage qui a croisé Magnum ou que Magnum a croisé dans son passé revient. Ils sont pas toujours très jojo, tiens d'ailleurs, puisque Michelle, donc la femme de Magnum, elle est poursuivie par les services secrets de la marine, c'est-à-dire exactement l'endroit où Magnum travaillait avant. Enfin bref, tout ça c'est bien compliqué. Il arrive très fréquemment que des personnages de la guerre rejoignent les Magnum, etc. Mais il y a aussi des fois où c'est une enquête qui croise des militaires, mais ça n'a rien à voir.
Mais le fait qu'il ait fait la guerre et qu'il ait été militaire, c'est quand même un peu la chose qui permet qu'il fasse autant de cascades, de poursuites en voiture. Enfin, il en fait pas tant que ça, mais qu'il puisse en faire, j'imagine très mal Raymond Burr dans ce genre de série. Donc le fait qu'il ait fait le Vietnam est finalement un prétexte à avoir quelques scènes d'action dans la série.
Voilà, c'est clair. Et puis aussi, ça place Magnum P.E., Private Investigator, c'est le nom anglais, ça place cette série dans une situation un peu d'avant-garde, on va dire, puisque 1980-88, c'était avant Né un 4 juillet d'Oliver Stone, donc c'était il y a très très longtemps, et certains épisodes ont carrément choqué l'Amérique. Alors évidemment, maintenant, quand on voit ça, nous, ça nous fait plutôt marrer, et d'ailleurs, en tant qu'Européens, ça nous fait un peu marrer. Mais il faut savoir que, d'abord, la chaîne a beaucoup hésité. Elle a hésité d'abord sur Rick, qui avait des relations avec la paix, mais elle a aussi hésité sur cette dimension des scénarios. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler des blessures des gens par rapport au Vietnam? Est-ce que vraiment on peut faire ça? Pour finir, ils l'ont fait, mais évidemment, ça drague tout un public qui adore les scandales et tout un public qui adore le Vietnam, évidemment. Et donc, ça a fait assez scandale. Je vais me répéter encore une fois. Non, mais c'est intéressant de montrer que, comme par exemple l'agence touriste qui pouvait être perçue comme violente à l'époque, ça l'est plus du tout maintenant, et bien Magnum pouvait être perçu comme une série d'avant-garde. Alors que maintenant... mais tiens, d'ailleurs, au niveau des guest stars, ils ont quand même eu Frank Sinatra. Pas mal, hein? Sharon Stone, pas connu à l'époque. Patrick McNee, qui lui, par contre, était déjà très bien connu. C'est celui qui a joué dans Chapeau melon et bottes de cuir. Et il jouait d'ailleurs le rôle d'un copain de Higgins qui se prenait pour Sherlock Holmes et qui entraînait Higgins dans une enquête un petit peu zarbi comme ça.
Il y a eu des crossovers, non? Dans cette série? Moi, je me souviens d'avoir vu un épisode crossover avec Arabesque et donc avec Jessica Fletcher, Angela Lansbury.
Ouais.
Où ça se passait une partie à Hawaï, une partie à Cabot Cove. C'était très drôle d'ailleurs. Je trouvais ça très amusant.
Et il y en a eu un autre avec Simon et Simon. Sachez que Larry Manetti, donc qui joue Eric, a lui-même écrit un livre sur Magnum qui s'appelle Larry Manetti's Magnum P.E. Memories. C'est écrit en anglais et ça n'a pas encore été traduit. Et il a été d'ailleurs co-signé par Donald Pelizzario, donc c'est probablement pas mal fait. Aloha Magnum.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.